Et on va continuer à travailler notre Jacob. Alors, c'est plus j'avance avec Jacob, plus je me dis que c'est un bonhomme bien, bien compliqué. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le choisir. Mais bon, hier, André était à une pastorale et il était donc avec Colin Dye. Et il est allé lui poser quelques questions sur Jacob de ma part. Et il a dit, c'est un personnage très complexe. Bon, bah tant pis, hein. Je pense que si Dieu nous l'a mis sur le cœur, c'est parce qu'on a des choses à apprendre, même si c'est un peu compliqué et beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Je ne m'étais pas rendu compte que son histoire est finalement très longue. Pas seulement le fait qu'il ait vécu longtemps, mais il a vécu un certain nombre de rebondissements dans sa vie qui font que on est obligé de travailler un petit peu. Et en plus, il y a le fait que c'est quand même une époque où on comprend assez mal cette époque-là où il n'y avait aucun texte. Il connaissait Dieu uniquement par les expériences qu'il vivait avec Dieu. Et il n'y en avait pas tous les jours. Donc, il faut essayer de se replacer dans le contexte pour bien comprendre Jacob et ses réactions. Parce que je pense que si on transpose Jacob en tant que personnage au XXIe siècle, on se plante sur tous les plans parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Par contre, le cœur humain, lui, il n'a pas changé. Et ça, c'est incroyable. Hein. Le cœur humain est toujours le même. Et on va se retrouver forcément dans Jacob. Mais au niveau de la foi en Dieu, au niveau de sa façon de comprendre Dieu et de vivre, évidemment, c'est quand même toute une autre époque. Mais on va essayer de s'en sortir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jacob est donc le deuxième patriarche, le troisième exactement. On a eu Abraham, qui a eu comme fils Isaac, et Jacob est le fils d'Isaac. On le resitue pour ceux qui ne connaissent pas forcément les trois grands patriarches du peuple juif et qui sont reconnus par les juifs, bien sûr, et par les chrétiens. Alors, on en était arrêté au rêve de Jacob. Donc, vous vous souvenez, il avait fui parce qu'il avait réussi à avoir la bénédiction de son papa, alors qu'elle est la bénédiction de l'aîné, alors qu'il n'était pas l'aîné. Il avait acheté son droit d'aînesse, finalement, en donnant à son frère la soupe qu'il avait préparée pour lui, un jour où son frère était affamé, et il lui a dit, en échange, tu vas me donner ton droit d'aînesse, le droit d'être l'aîné, c'est-à-dire d'avoir l'héritage, la bénédiction. Et ça, c'était une première étape. La deuxième étape, c'est au moment de la bénédiction du papa, qui était aveugle. Il s'est déguisé, il a pris la place de son frère, de son grand frère, et il a passé pour l'aîné, il a réussi à avoir la bénédiction. Seulement, quand son frère l'a appris, il n'avait plus qu'une idée en tête, le tuer dès que le papa serait mort. Il avait quand même du respect pour son père, et dès que Isaac serait mort, je vais tuer Jacob. La maman, qui était complice, n'a rien trouvé de mieux que de dire, écoute, tu vas faire comme ton père a fait, tu vas aller dans ma famille, à Haran, donc c'était au nord-est de là où ils étaient, et tu vas chercher une femme là-bas. Pendant ce temps-là, ton frère aura le temps de se calmer. Et puis, je te ferai revenir. Bon, elle ne savait pas que ça prendrait plus de temps que ça et que les choses... elle ne reverrait jamais son fils, quand même. Elle avait été complice et elle l'a payé cher aussi, elle, complice de la tromperie. Donc, le nom de Jacob, déjà, voulait dire supplanteur, trompeur. Et il portait bien son nom, comme l'avait dit son frère. Ah, il porte bien son nom. Deux fois, il m'a eu. Deux fois, il m'a roulé. Quoi. C'est ça que ça voulait dire. Et il porte bien son nom de trompeur. Donc, il se sauve, il s'en va, visiblement avec pas grand-chose. Et il fait ce rêve sur la route. Je pense que c'est le deuxième soir, vu le kilométrage. Il dort et il fait un rêve. Où il voit, on l'avait fait donc ça la dernière fois, il voit donc un escalier avec des anges qui descendent et des anges qui montent. Donc là, on voit Jacob qui est couché et les anges qui montent et qui descendent de cet escalier. Et le Seigneur lui dit pendant ce rêve tout un certain nombre de choses, entre autres, « Je suis le Seigneur ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. » Alors, on en était là, hein. Donc l'escalier, c'était important parce que ça lui montrait qu'il y avait un point de liaison entre la terre et le ciel, un moyen de communication. Il y avait une communion possible avec Dieu entre ceux qui aimaient Dieu sur la terre et Dieu au ciel. La porte était ouverte, ils n'étaient pas seuls. Et ça, c'était important, on avait parlé là-dessus, que nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, il y a toujours cette porte ouverte avec le ciel. Les anges, les messagers qui montent et qui descendent, la définition de la Bible, et là, il faut être attentif, parce qu'en ce moment, un petit peu partout, on parle des anges un petit peu de façon... pas du tout biblique, la Bible est claire, ce sont des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Hébreux 1, 14. Donc, il ne s'agit pas de les prier, il ne s'agit pas de leur parler, il ne s'agit pas de chercher à les contacter, c'est Dieu qui gère ces esprits serviteurs qui sont là pour exercer leur ministère envers les enfants de Dieu. Protéger, aider, etc. Je vous avais dit qu'il y a pas mal de très très belles histoires là-dessus, sur les anges. On aura un jour ou l'autre, je pense on en parlera. Mais ce sont des personnages que nous ne sommes pas appelés à contacter. D'ailleurs, c'est symptomatique. Dans ce rêve, ils ne s'adressent pas du tout à Jacob. Ils se contentent de monter et descendre. Et Jacob ne s'adresse pas à eux. Ils accomplissent leur mission auprès de Dieu. Puis Dieu parle à Jacob, et en gros, il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. » Et puis, il ne peut pas encore dire « ton Dieu », c'est à noter. Il lui dit, « Je te donnerai cette terre à toi et à tes descendants. Ta descendance sera nombreuse, étendue et sera bénie. » Ça, c'était la même bénédiction, dont ça, c'était le devoir des enfants, la même bénédiction qui avait été donnée à Abraham et à Isaac. Donc Jacob reçoit cette partie-là, c'est exactement la même. Et puis lui, il a un supplément qu'on avait vu la dernière fois. « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai sur cette terre et je ne t'abandonnerai pas. » Et Dieu sait qu'il avait bien besoin de ces paroles-là pour les 20 années qui vont suivre. « Je te garderai partout où tu iras, je suis avec toi. » Déjà, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Il n'avait visiblement pas une grosse caravane avec lui, il était visiblement seul et il avait vraiment besoin que Dieu soit avec lui. « Je te garderai partout où tu iras », on avait parlé de tous les dangers possibles de ce voyage, qui était quand même très long, plus de 400 kilomètres quand même. « Je te ramènerai sur cette terre », ben justement c'était la question qui se posait, vous rappelez, qu'est-ce que je vais devenir? Dieu me promet des choses et puis je suis obligée de fuir. Il me dit « voilà, ton avenir est là » et moi je suis obligée de m'en aller exactement à l'autre bout. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça, que parfois dans notre vie, on sait qu'on a un appel pour quelque chose et on dirait qu'on va complètement dans l'autre sens, par la force des choses. Et on se dit, c'est pas possible. Et ça arrive. Mais Dieu sait très bien nous faire refaire la boucle, il ne faut pas s'inquiéter. Je te ramènerai sur cette terre et je ne t'abandonnerai pas. Dieu est un Dieu qui ne nous abandonne jamais, même quand on ne se conduit pas correctement. Ça ne veut pas dire qu'il nous approuve. Souvent, les gens confondent ça. Ou bien ils disent, oh, bah, Dieu aime tout le monde. Alors, on peut faire les pires bêtises, tout va très bien, il est content. Non. Ou alors, je fais la moindre petite bêtise et hop, ça y est, la communion avec Dieu est coupée, c'est fini, je suis abandonnée de Dieu. Ça, c'est les extrêmes. Ce que dit la Bible, c'est « je t'aimerai toujours, je t'abandonnerai jamais, quoi que tu fasses ». Mais ça ne veut pas dire qu'il nous approuve. Il faut être clair. Il peut très bien désapprouver ce qu'on fait, ce qu'on dit, mais il nous aime quand même. Maintenant, après, comme il nous désapprouve, il va nous faire passer par son école. Et ça, il faut mieux obéir que de passer par ce genre d'école. Mais vous allez voir que Jacob va passer par ce genre d'école parce que Dieu ne l'approuvait pas dans sa tromperie, ça c'est clair. Dieu lui avait donné ces promesses-là, il les avait prises de force, en trompant, en supplantant, en magouillant, en manipulant. Et ça, Dieu n'était pas d'accord. Mais il aimait Jacob. Il lui a dit, je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai, je t'abandonnerai pas. Mais ce qu'il ne lui avait pas dit, mais ce qu'il allait faire, c'est « Et maintenant, tu vas prendre ta fessée. Maintenant, tu vas apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. » Mais l'amour de Dieu est resté là. Et c'est ça, je crois qu'il faut bien comprendre dans la vie chrétienne. J'ai rencontré parfois des chrétiens qui avaient tellement peur de déplaire à Dieu que ça devenait une hantise. C'est bien de craindre Dieu. J'admire beaucoup les gens qui ont la crainte de Dieu, mais... vivre tout le temps dans l'idée que oh, j'ai pensé ça, ou j'ai dit ça, ou j'ai fait ça, et qu'est-ce que ça y est, c'est fini. Non, Dieu ne nous abandonne pas, il nous aime. Gardons ça toujours à l'esprit. Mais s'il désapprouve notre comportement, il nous le fera savoir et il fera tout pour nous corriger. Parce qu'il nous aime. C'est aussi une preuve de son amour. Et Jacob, vous allez voir, ça ne va pas être triste. Hein. Ça, alors là, ça ne va pas être triste. Dieu a répondu à ses questions. Et puis, on voit que c'est là, pour la première fois, Jacob va avoir une réelle relation. Jusqu'ici, c'était le Dieu de papa et de grand-père, le Dieu d'Abraham et Isaac. Maintenant, il commence à avoir sa relation avec son Dieu à lui. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'était à l'initiative de Dieu. Contrairement à toutes les religions du monde, dans le judaïsme, dans le christianisme, c'est Dieu qui tend la main à l'homme. Et pas l'homme qui fait tous ses efforts pour plaire à la divinité. Rappelez-vous toujours de ça, surtout les jeunes, parce qu'à l'école, on essaie toujours de vous faire croire que l'homme a inventé Dieu, avec son imagination, etc. Et bien, partout dans le monde, chaque fois qu'on a inventé un Dieu, qui s'appelle de toutes sortes de noms, c'était l'homme qui cherche à plaire à Dieu, qui cherche à être en relation avec ce Dieu, qui fait des sacrifices, qui fait des offrandes, blablabla. Là, c'est Dieu qui se tourne vers l'homme, et le premier sacrifice qui a été fait avec Abraham, c'est Dieu qui est passé au milieu du sacrifice. C'est-à-dire qui indiquait que l'alliance allait tenir éternellement. Ça, c'est une grosse différence. Hein. Ça ne pouvait pas sortir de l'imagination de l'homme. Toutes les imaginations humaines à la surface de la terre, c'était l'homme qui cherchait à connaître Dieu. Là, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme et qui lui tend la main. Une grosse, grosse différence. Surtout pour ce qu'on vous raconte à l'école, c'est très, très important. Alors la promesse est la même, hein, celle qu'on a entendue à Jacob, elle est la même pour vous qui êtes enfants de chrétiens. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Bien sûr, c'est le Dieu de papa et maman, mais ce qu'il veut, c'est devenir votre Dieu à vous. Et ça ne se fait pas automatiquement. On dit toujours, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Ce n'est pas parce que vos parents sont chrétiens que vous êtes... plus béni, plus protégé, plus ceci, et que vous n'avez pas besoin de Dieu. Non, vous avez besoin de votre expérience de bénédiction, votre expérience de relation avec Dieu. C'est indispensable. Ça, il faut toujours bien garder ça à l'esprit. Dieu a fait alliance avec vos parents ont fait alliance avec Dieu, mais ce n'est pas héréditaire. Ça sera à vous de refaire votre propre alliance avec Dieu. Ce n'est pas héréditaire. Vous pouvez hériter des tas de choses de votre part, de vos parents, y compris leur mauvais caractère. Mais vous ne pouvez pas hériter de l'alliance. C'est vous qui devez refaire une alliance avec Dieu. Alors Jacob, sa réaction après ce rêve, c'était quand même, ça vous ébranle un rêve comme ça, je veux dire, ça ne vous arrive pas toutes les nuits. Hein. Sa première réaction, c'est « Le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas ». On va lire ça pour se remettre dans le bain, c'est 28 verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Alors ça peut vous étonner, parce que pour nous, chrétiens du XXIe siècle, Dieu est omniprésent, comme on dit si bien, présent partout. Ouais, ça nous semble évident, mais croyez-moi qu'à cette époque-là, ce n'était pas évident du tout. Parce que les croyances de l'époque, c'était qu'il y avait un Dieu par région. Il y avait le dieu des rivières, le dieu du grand fleuve, le dieu de la plaine, le dieu de la montagne... Et donc que le Dieu d'Abraham et d'Isaac soit présent là, des kilomètres plus loin, c'était une révélation. Mais alors il est partout, il est avec moi, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire qu'il va être avec moi partout. Et la réaction, c'est un choc. Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Vous savez, parfois, nous aussi, ça nous arrive. On vit des expériences difficiles et puis on se dit, mais où est Dieu? Où est Dieu en ce moment? J'avais cité l'expérience des gens en camp de concentration. Où est Dieu? Ben, il est là, il souffre avec ceux qui souffrent. Il est là, il est proche. Et on ne le sait pas. Parfois, on ne le sait pas. Dans les moments difficiles, souvent, on se dit, où est Dieu? Mais il est là. Faut pas... Il est là et je ne le savais pas. Pensez bien à ce verset quand vous avez des difficultés. Et puis, deuxième réaction, ben, il a peur. Bon, ça me semble un peu logique, hein. On n'a pas des rêves comme ça, une vision, entendre la voix de Dieu, puis rester comme ça, cool. Hein. C'est comme parfois des gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit » à tour de bras. Puis visiblement, ça leur secoue pas l'ombre d'un poil. On se dit « Bon, non, ça impressionne quand même quand Dieu parle vraiment. » Et il dit que ce lieu est redoutable. Donc il a peur. « Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Ah, ça fait penser à une autre citation, hein. Jésus a dit « Je suis la porte ». Quelque part, hein, il sentait déjà ça. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Dieu est puissant, il est créateur, mais il est accessible. C'est vrai qu'il y a une certaine crainte, mais il est accessible. Ça, c'est une découverte. Oh, ce Dieu d'Abraham, Isaac, il est là, il est partout, il est accessible. Il y a une porte qui permet de communiquer avec lui. Vous savez, à cette époque-là, ils pensaient que c'était lié à des lieux. Alors, on va à un lieu, d'ailleurs, le pèlerinage, c'est encore un reflet de ces vieilles croyances, hein, où on pense que dans un lieu donné, il y a une porte ouverte. Mais la porte, elle est ouverte dans nos cœurs. Et Jésus a dit, je suis la porte. Et là, il va faire son premier acte d'adoration. Alors là, on n'est pas au XXIe siècle non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève de bon matin, il prend une pierre, celle qu'il avait placée sous sa tête, donc elle devait quand même être assez grande, mais pas trop. Il en fait une pierre levée, donc il a dû la poser sur d'autres pierres, et il verse de l'huile sur son sommet. Ah, alors là, mes élèves, souvent, de l'huile, mis à part pour la salade ou la friture, ils ne voient pas trop ce qu'on peut faire avec de l'huile. Et ben pourquoi de l'huile? Je me suis longtemps posé la question, j'ai trouvé la réponse. Parce que l'huile est un liquide qui ne se mélange pas. On apprend ça à l'école, non miscible, qui ne se mélange pas. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on mettait de l'huile sur la pierre? Pourquoi on met de l'huile sur le front des rois? Pourquoi est-ce que... Parce que l'huile est un symbole de non-mélange. Vous voyez où Dieu veut en venir? De consécration. Alors, il y a un très gros mot dans les milieux chrétiens. Dans nos églises, on est assez raisonnable, on ne l'utilise pas trop, mais dans mon église, on l'utilisait beaucoup, surtout les vieilles grand-mères. Il fallait être sanctifié. Et si on n'était pas assez sanctifié, oulala! Je ne sais pas si elle voyait bien ce que ça voulait dire, hélas. Mais la sanctification, ça veut dire être séparé de quelque chose et consacré à quelqu'un. Pas quelque chose. Séparé d'eux, consacré à. C'est pour ça, c'est le symbole de l'huile. L'huile, elle ne peut pas se mélanger avec autre chose. Et quand on la versait, ça voulait dire séparé d'eux, consacré à. Séparé du monde, séparé de nos vieilles habitudes, de nos péchés, blabla, et consacré à Dieu, à une vie nouvelle. C'est clair. C'est un liquide qui ne se mélange pas. Et le chrétien, c'est un liquide qui ne se mélange pas. Enfin, j'espère qu'il n'est pas liquide quand même. C'est quelqu'un qui ne se mélange pas. Il vit au milieu des autres, mais il ne se mélange pas. On ne peut pas le confondre avec les autres. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand j'entends dire d'un chrétien par des gens qui le connaissent, qui ne savent pas que je le connais, ou ça arrive de temps en temps, qui disent « Oh, il est différent des autres. » Ah, je me dis ça, c'est ça. Il est différent des autres, il ne se mélange pas. Tout en étant extrêmement gentil, bien sûr, il ne s'agit pas de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Non, quand même pas. Mais simplement, il est différent. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est important pour moi. Il ne se mélange pas comme on pourrait mélanger deux liquides, hein? Mais vous mettez du sirop d'orange et de l'eau, ça se mélange bien. L'huile et l'eau, ça ne va pas se mélanger. Donc voilà le symbole de l'huile. On a tous appris quelque chose, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai appris, donc ne vous inquiétez pas. On ne se mélange pas. Et donc, il a versé cette huile pour bien signifier, là, il y a quelque chose qui est mis à part pour Dieu. C'est mis à part pour Dieu. Et puis, il va faire un vœu. Alors là, quand je vous disais que quand on lit la parole de Dieu, on a besoin de prier, là, pour ce texte, j'ai prié. Parce que ce n'est pas évident du tout. Je peux le lire de deux manières différentes. On va y aller. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu, sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. » Mais je peux le lire aussi tout à fait différemment. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre sera une maison de Dieu, etc. Et on peut même, ça j'ai vérifié, enlever le dernier alors, non seulement enlever le alors, mais dire, si comme tu l'as dit, tu veux bien être mon Dieu. Voilà, moi je m'engage. Et les théologiens se disputent sur ce texte. J'ai même parlé avec quelqu'un qui enseigne à Vaux-sur-Seine et je pas aimé son opinion. Ouais, Jacob, de toute façon, il est nul, il est... Ouhou! Bon, ça m'a pas fait plaisir parce qu'effectivement, Jacob, il a un côté nul, hein. Mais quand même, interpréter ce vœu comme un marchandage avec Dieu, moi, je ne crois pas. C'est oublier que à cette époque-là, les vœux étaient très importants. Et souvent, quand on s'approchait de Dieu, on faisait un vœu. Mais on ne le faisait pas dans un esprit de marchandage. Donnant, donnant. Tu fais ça pour moi, alors. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce verset. Et voyez comme quoi il faut prier quand on lit la Bible, qui comprennent ce verset comme si Jacob était venu à Dieu, les mains dans ses jeans, en disant, « Bon, très bien, si tu fais ça et ça pour moi, alors je te ferai la grâce d'être mon Dieu. » Non. Moi, on ne peut pas imaginer ça à cette époque. Il y avait une crainte de la divinité, quelle qu'elle soit. Déjà, quelle qu'elle soit, il y avait une crainte. On était capable, dans certaines peuplades, de sacrifier ses nouveau-nés. Il y avait une crainte de la divinité. On n'est pas au XXIe siècle où on se fout de Dieu complètement, dans certains milieux. Non, il y avait une crainte. Les gens avaient peur. Quand ils voyaient la foudre, quand ils voyaient les tempêtes, quand ils voyaient certaines inondations, etc. Mais ils avaient peur. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait à la divinité? Là, ils découvrent, non pas une divinité, mais le vrai Dieu. Il y a quand même une crainte. Il vient de le dire d'ailleurs juste en dessus. Ce lieu est redoutable. Donc je n'imagine pas dire ce lieu est redoutable et 5 secondes après dire bon, Seigneur, je te ferai l'honneur d'être mon Dieu si tu fais ça, 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 ça pour moi. Vous voyez, on peut lire la Bible comme ça. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que historiquement, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit à ce prof d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne le connaissait pas très très bien, ce Dieu. Donc, il prend ses précautions. Si tu acceptes, moi je le sens comme ça, si tu acceptes de faire tout ce que tu as promis, oh, si tu maintiens ce que tu m'as dit, oh, mais alors tu vas être mon Dieu. Je vais te donner la dîme de mes revenus et voilà, je consacre ce lieu, etc. Vous voyez? Alors, on peut lire la Bible de deux manières. D'où l'importance de prier. Parce que en fonction de ce qu'on a dans le cœur, en fonction de ce qu'on a dans le cœur, on va la lire de deux manières différentes. Et vous allez voir, c'est vrai pour ce texte, puis il y a un autre texte encore après qu'on peut lire de deux manières différentes aussi. C'est la lutte de Jacob avec Dieu. Très difficile. Il m'a donné des cheveux blancs là, cette semaine. J'en parlais avec André en me réveillant. Sous les couvertures, j'étais encore là en train de dire, « Tu crois que... » C'est pas facile, hein. Il y a des endroits dans la Bible où il faut vraiment chercher, creuser. Et on comprend ce verset qui dit « Tu es un Dieu qui te cache, ô Éternel. » Je crois que parfois, Dieu aime bien... Vous savez, les enfants aiment bien jouer à cache-cache. Je me demande si Dieu se dit « Mais ces enfants-là, ils ont peut-être besoin qu'on joue à cache-cache avec eux. » Alors, ils se cachent. Puis nous, il faut qu'on cherche. Ah, c'est peut-être pas faux, hein. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on creuse. Il faut qu'on cherche pourquoi Dieu a dit ça. Et voilà, donc je vous recommande vraiment... Je nous recommande que quand on lit la Bible et qu'on a un texte un petit peu difficile, avant de donner une interprétation, prions. Seigneur, donne-moi ton esprit, ta façon de voir. Parce qu'il y a quand même, là, avec ce texte, 4000 ans d'écart. Attention, si on comprend les choses avec nos points, nos références à nous, on peut les comprendre vraiment de travers. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Vous savez, j'ai vu des gens qui avaient été très engagés. J'ai rien contre les syndicats en tant que tels, mais des gens qui avaient été très engagés dans des milieux syndicalistes et qui avaient le pli de revendiquer sur tout et partout. Revendiquer, c'était le maître mot de leur vie. Et bien, les problèmes qu'ils avaient quand ils lisaient la Bible. Parce que dans ce cœur de revendicateur, il n'y avait pas de place pour accepter la parole de Dieu comme un enfant. Et ces gens ont souffert. Je pense à quelqu'un en particulier, c'était vraiment dur. Parce que dès qu'il lisait un texte, « Ah, bon, oui, bon, et hop, c'était la revendication. Ah. Donc, soyons prudents, suivant ce qu'on a dans le cœur. C'est pour ça que, à la Ligue pour la lecture de la Bible, on dit toujours, avant d'ouvrir la Bible, demandez à Dieu de vous éclairer. « Ta parole est une lampe à mes pieds, éclaire-moi, Seigneur, etc. » C'est important. Je vous le signale parce que vous voyez ce texte, on pourrait vraiment le comprendre de travers et dire, ben Jacob est un vrai commerçant juif, hein, et ça commence bien, donnant, donnant, pof, pof. Non, je ne crois pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas un petit peu de ça. Peut-être quand même, un petit peu, bah, Seigneur, voilà, je ne te connais pas très bien, je te fais confiance. Oui, tu me fais l'honneur d'être mon Dieu, toi. Mais bon, il y avait peut-être un petit chouïa de « si tu es bon pour moi, bon, je te promets ». Mais c'était un peu l'essence des vœux, hein. Les vœux que les gens faisaient dans la Bible, et ils sont réglementés dans le Deutéronome, je crois. C'était un petit peu ça, hein. « Seigneur, si tu veux bien faire ça pour moi, alors je t'offrirai, etc. » Moi, j'ai connu des gens qui ont rencontré le Seigneur comme ça. D'ailleurs, David n'est pas là, mais les amis de Noëlla, je crois qu'ils sont dans une église où le pasteur, moi je l'ai connu quand il s'est converti tout juste, et c'était un communiste primaire et viscéral qui levait le poing contre Dieu, qui refusait la foi, etc. Et puis un jour sa mère est tombée gravement malade, et là il s'est mis à genoux chez lui et il a dit: si tu existes, guéris maman, et moi je te servirai. Bon, alors ça peut paraître un peu marchandage, et c'est la suite qui monte si c'est un marchandage, c'est que ça n'a pas été, c'est que vraiment sa mère a guéri, et ça a été un homme qui a vraiment suivi le Seigneur, qui a été vraiment super. Vraiment super, un témoignage puissant d'amour pour Dieu. Donc, vous voyez, on peut lire un texte un petit peu de travers, on peut voir mal les choses. Je voulais vous raconter ça pour que, quand vous lisez un texte de la Bible, si vous avez l'impression que vous risquez de le comprendre de travers, priez. Demandez l'aide de Dieu pour qu'il touche votre cœur et qu'il vous dise exactement ce qu'il veut dire. Bien, donc Jacob fait un vœu. C'est qu'une première étape dans sa vie, mais ça marque le début d'une relation avec Dieu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur la route, s'il me donne du pain, des habits. Enfin, il en était là, dites donc, le fils de l'émir. Parce que c'était carrément un fils d'émir, hein, si on veut actualiser. Il en était là, de dépendre de Dieu pour tout. Ah ah ! Le petit trompeur, là, le petit magouilleur, il avait changé déjà. Hein. Si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. C'est Seigneur, alors tu seras vraiment mon Dieu. Et non pas, alors, donnant, donnant. Et ça, j'ai quand même vérifié chez des théologiens. Et effectivement, ça peut très bien être traduit « puisque le Seigneur est mon Dieu ». Vous voyez ? Et non pas « alors le Seigneur est mon Dieu ». Donc, moi, j'y vois pas du tout un marché. C'est un simple engagement, un vœu appuyé sur les promesses qui viennent d'être données, car il sait que Dieu aurait bien des raisons de se détourner de lui, et il est touché. Il est touché que Dieu se tourne vers lui et ce Dieu lui tende la main. Jacob pense à l'endroit où il se tient quand il dit « c'est la maison de Dieu ». Mais nous, aujourd'hui, il y a un verset qui dit dans Éphésiens 2, 22, « c'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit ». Vous voyez, non seulement Dieu habite en nous, mais nous ensemble, on est aussi une habitation de Dieu. Donc, il est au milieu de nous. Et Bethel, c'est notre cœur, la maison de Dieu. C'est l'église locale aussi, Bethel. Bethel, c'est un premier pas vers un Dieu personnel. Ce n'est pas encore le demi-tour de la conversion. Ah, Jacob, il reste encore Jacob. Il a fait un premier pas vers le Seigneur. Il a établi la relation. Mais il n'est pas encore profondément changé. Il a encore ce petit côté donnant-donnant chez lui, ce petit côté commerçant. Et heureusement, il ne va pas en rester là. Et c'est important pour nous. C'est bien d'examiner notre foi de temps en temps et de dire, Seigneur, est-ce que ma relation avec toi, c'est encore, si tu me bénis, si tu veux bien faire ça pour moi, alors je te servirai. Est-ce que j'en suis encore là? Dieu n'est pas contre, la preuve, c'est qu'il lui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Mais si on en est encore là, on a du chemin à faire et Dieu va nous faire faire du chemin. Il faut regarder nos cœurs quand la Bible dit, sondez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Est-ce que ma foi est encore, si tu me donnes, alors, je te suis. Est-ce qu'on en est encore là? C'est bien, c'est un premier pas, c'est un début de relation avec Dieu, mais vous allez voir que Dieu va emmener Jacob beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Pas seulement si tu réponds à mes prières, alors bon, ça va, mais il va l'emmener beaucoup, beaucoup plus loin. Et si on dit, bah, Seigneur, oui, j'en suis là, c'est vraiment si tu réponds à mes prières, etc., alors ça va, sinon... Eh bien, Dieu ne vous juge pas, sachez ça. C'est déjà un premier pas. Dieu a quelque chose de particulier, c'est qu'il ne nous condamne pas. Les hommes condamnent, les hommes jugent. Ouais, toi, tu n'es pas un bon chrétien, toi, tu n'es pas sanctifié. Les hommes jugent. Mais Dieu, il ne nous juge pas. Par contre, toute sa vie et toute notre vie, il va essayer de nous corriger. Il ne juge pas, mais il corrige. Attention. Et il va rentrer dans une autre étape, Jacob. Il va rentrer dans une autre étape absolument passionnante. Et là, il va passer de la relation à la conversion. Et mission, j'allais dire mission impossible, aux hommes en tout cas, il va partir à l'école. Il arrive à l'école chez son tonton Laban, Genèse 29. Ah, alors Laban, c'est autre chose. C'est pas le gentil et paisible papa Isaac. Laban, c'est pas Ésaü, explosif, bof, mais bon, après tout, un peu pleurnichard aussi, il a pris mon droit d'aînesse, et puis en plus, il mérite bien son nom, et maintenant il a pris ma bénédiction, et puis quand papa sera mort, je le tuerai, là. Laban, c'est un renard. Et Jacob va trouver son maître. Il va trouver son maître dans tous les sens du terme, son maître d'école, parce que c'est l'école de Dieu, son patron, parce qu'il va travailler pour lui, le chef de famille, parce qu'il va épouser ses deux filles, le pauvre. Et puis, son maître en tromperie, parce qu'il est encore plus rusé que Jacob. Et là, il va trinquer. Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient, donc nord-est. Il aperçut un puits dans la campagne. Trois troupeaux de petits bétails étaient au repos à côté, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Il y avait une grande pierre pour boucher l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de l'ouverture du puits, on faisait boire le petit bétail et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Comment va-t-il ? » Ils répondirent, « Bien, voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Et là, il y a la musique. Il dit, « Il fait encore grand jour, il n'est pas encore temps de rassembler le troupeau. Faites boire le petit bétail, puis allez le faire paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas tant que tous les troupeaux n'ont pas été rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de l'ouverture du puits qu'on fait boire le petit bétail. Il parlait encore avec eux lorsqu'arriva Rachel. Là, il y a la batterie et le violon. Avec le petit bétail de son père, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, le frère de sa mère, Jacob s'approcha. Et apparemment, en passant, il ne devait pas y en avoir des masses puisqu'elle était toute seule. Donc ça devait être un troupeau correct, moyen, mais rien de plus. Et vous allez voir, quand Jacob va travailler pour lui, comment le troupeau va se développer. C'est à noter. Jacob s'approcha. Roula la pierre de l'ouverture du puits, fit boire le petit bétail de Laban, le frère de sa mère. Puis Jacob embrassa Rachel et se mit à sangloter. C'est un homme émotif, notre Jacob. On n'avait pas vu ça encore. On n'avait pas vu ça. Il est très émotif. Et les hommes de l'Orient n'ont pas peur de pleurer, ce qui est excellent pour la santé, messieurs. Jacob dit à Rachel qu'il était un parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Elle courut le dire à son père. Dès que Laban eut appris l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit et l'embrassa, on est en Orient. Il le conduisit chez lui et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, tu es vraiment mes os et ma chair. Je ne sais pas s'il avait repéré qu'il était aussi trompeur que lui. Il habita chez lui un mois durant. On pense, moi là, visiblement, il a travaillé parce qu'il était courageux. Ça, c'était un bon point pour notre Jacob. Il était courageux. Il ne s'est pas laissé vivre un mois chez son tonton. En se disant, bon, les doigts de pied en éventail. Non, non, non. Il s'est mis tout de suite au travail. Et ça, j'admire chez Jacob, ce sens du travail. Il a été là un mois, il a travaillé. À tel point que Jacob dit à Laban, me serviras-tu pour rien, alors parce que tu es mon frère ? Moi, je me serais méfiée à la place de Jacob, là. Mais il s'est pas méfié. Dis-moi, quel doit être ton salaire ? Or, Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa, le nom de la cadette était Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Vous pensez bien qu'en un mois, Laban avait dû repérer ça. Et dans sa petite tête de renard, le tiroir caisse avait dû commencer à faire clic, 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 clic. Il s'était dit, ce gars, il travaille bien, ça fait un mois qu'il est chez moi. Il bosse comme deux ou trois gars. Visiblement, il est intéressé par Rachel. Donc, quand il lui a posé la question, ce n'était pas gratuit du tout. Il avait déjà un agenda caché, comme disent les Anglais. Il avait déjà un plan d'action là-bas. Et naturellement, il tombe dans le panneau. Le grand trompeur Jacob. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Clic, clic, clic. Laban dit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Toujours gentil, hein. Il n'avait pas beaucoup de... Bon, enfin. Reste chez moi, reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Ce fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ça, c'est un verset que beaucoup de gens utilisent pour les mariages. Évidemment, quelques jours, 7 ans, c'est quand même long, 7 ans. Il a servi. Et alors, quand je dis servir, quand la Bible dit servir, c'était servir, hein. Pour vous donner une petite idée de ce qu'il a vécu, Jacob, il faut que vous le sachiez parce qu'il le dit plus tard à Laban quand il en a jusque-là, même encore plus. Il dit ça à Laban. On le verra plus tard, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le lire maintenant. Il lui dit « J'ai passé 20 ans chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes déchiquetées. » Ça veut dire qu'il était sur le qui-vive, hein, parce que les lions de montagne, tout ça, il y en avait, hein. C'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait le jour et de ce qu'on me volait la nuit. J'étais dévorée par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes yeux. Je suis restée 20 ans chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes filles, 6 ans pour ton petit bétail. Tu as changé 10 fois mon salaire. Or, si l'Éternel Dieu n'avait pas été pour moi, tu m'aurais laissé partir les mains vides, etc. Il lui dit ça 20 ans après. Donc, vous voyez un peu le boulot qu'il a fait, déjà pendant un mois. Et puis encore pendant 7 ans pour avoir Rachel. Mais les choses se gâtent. Jacob dit à Laban, après les 7 ans, curieux, hein, c'est même pas Laban qui y a pensé. Les 7 ans sont écoulés. Je suis sûre qu'il s'est dit, s'il n'y pense pas, c'est très bien. Mais il y a pensé. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, je veux aller avec elle. Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Alors là, écoutez bien. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui alla avec elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à Léa. Le matin venu, surprise, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?»« Oh, petit chou. Comment on a osé tromper ? Non, mais ça ne se fait pas, ça. » Laban dit, « Il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aîné. » L'aîné, c'est pas un mot qui résonnait, ça, aux oreilles de Jacob? Achève la semaine de noces avec celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine de noces avec Léa, puis il lui donna pour femme sa fille Rachel, et aussi lui donna une servante, etc. Il aimait Rachel plus que Léa, et il servit encore Laban pendant 7 autres années. Mais il n'a pas attendu les 7 ans pour avoir Rachel quand même. Il y a des gens qui pensent ça. Mais si vous lisez bien le texte, vous voyez que non, non. Si vous lisez bien le texte, à la fin de la semaine de fête, il lui a donné Rachel. Alors là, vous allez voir, Laban est un homme qui aime la richesse avant tout. Il est prêt à tout pour s'enrichir. Rien ne l'arrête. Ni les liens familiaux, ni sa réputation, on peut dire ce qu'on veut, ni la morale ou la religion. Au bout d'un mois, il a eu le temps de voir que Jacob travaillait bien, qu'il avait l'intention de rester plus longtemps et qu'il s'intéressait à Rachel. C'était le bon moment pour parler salaire, le moment où il était affaibli. Il sent que Jacob serait prêt à tout, donc il y va. L'idée d'obtenir 7 ans de travail pour sa fille lui convient, parce que pour l'époque même, c'était une belle dot. Hein. C'était beaucoup. Jacob n'était pas en position de discuter, il n'avait pas un sou. Il n'avait rien à donner que son travail. Le début de l'école. Le fils de l'émir n'avait pas un sou. Pas évident pour Jacob, il est bien humilié. Il n'est pas du tout en état de supériorité. Son seul bien, c'est son travail. Et c'est un gars travailleur. Et c'est après 7 ans, c'est lui qui réclame sa femme. Curieusement, Laban ne l'a jamais informé des coutumes locales. Il me semble qu'en 7 ans, il aurait pu entendre dire par un serviteur, un voisin, un copain, quelqu'un, « Fais attention !» Dans nos régions, on ne marie pas la petite si l'aîné n'est pas marié. Ce qui fait que beaucoup de théologiens, et moi aussi je le pense, mais je ne suis pas théologien, c'est que c'était une trouvaille de la ruse de Laban. Parce que c'est quand même curieux qu'il soit resté, il devait en parler quand même avec les serviteurs, avec les autres bergers. Ah, tu vas épouser Rachel? Ah oui, ah bon. Instinctivement, n'importe quel berger aurait dit, fais attention, hein, chez Laban, on ne marie pas la petite si l'aînée n'est pas mariée. 7 ans, vous avez le temps d'en causer quand même. Je sais bien que les garçons parlent moins de ce genre de choses que les filles, mais quand même. Donc je soupçonne, on ne peut pas le garantir, mais je soupçonne que Laban avait simplement trouvé une bonne ruse. Parce que quand même, en 7 ans... Et puis Laban, eh ben, il a subtilisé le soir du mariage, il va lui refiler l'aîné. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est de voir les ressemblances. Et vous savez, moi j'ai remarqué que Dieu, il ne fait pas ça pour nous jouer des tours ou pour se moquer de nous parce qu'il nous aime. Mais il nous enseigne, il nous met à son école et on apprend beaucoup plus vite par l'expérience. Et il va faire l'expérience de la tromperie, mais dans l'autre sens. Alors écoutez bien. C'est un banquet, on est d'accord. Donc, il fait manger et boire son gendre. Qu'est-ce qu'il avait fait, Jacob? Il n'avait pas fait manger et boire son père avant? J'imagine qu'il avait dû l'encourager, hein? On est en Orient, quand même. L'alcool était fort. Isaac était aveugle. Jacob, ça, c'était la coutume. Les archéologues le confirment. Le soir du mariage, c'était dans l'obscurité totale, sous les tentes. Il n'y avait pas de flambeau, il n'y avait pas de lumière. Donc, Isaac était dans l'obscurité parce qu'il était aveugle, et Jacob était dans l'obscurité parce qu'il faisait noir. Léa était forcément déguisée. Elle n'avait pas ses vêtements à elle, elle devait être bien voilée. Jacob s'était déguisé, non? Laban va lui présenter Léa en lui disant, c'est Rachel. Et lui, comment il s'était présenté à son papa? C'est Ésaü. Rebecca était complice. Et là, bah, Léa était complice. Léa était complice de Laban. Et Léa, qui est l'aînée, passe pour la cadette. Et Jacob, le cadet, a passé pour l'aîné. On dirait que Dieu s'est amusé à reproduire une situation quasiment identique. Et moi, je peux vous dire une chose. Maintenant que je commence à avoir des cheveux blancs, j'en ai vu des choses comme ça dans la vie courante. Vous savez, parfois, les gens du monde disent « il y a une justice » ou des choses similaires. Et c'est vrai. J'ai des exemples très concrets à l'esprit où certaines personnes ont fait un certain nombre de méchancetés, on va dire, à d'autres. Et Dieu les a fait passer par les mêmes choses quelques années après. J'ai des exemples très précis à l'esprit, où on peut reprendre exactement comme j'ai repris la comparaison là, hein, entre ce qu'a fait Jacob et ce qu'a fait Laban. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Et je suis convaincue que Dieu ne le fait pas pour le plaisir de se moquer de nous, parce que Dieu ne se moque pas de nous. Il nous aime. Mais les choses méchantes qu'on fait, qu'on dit, souvent, ça nous revient. C'était boomerang, vous savez, comme ces bâtons australiens qui vous reviennent si vous les lancez. Très souvent. Je me souviens au travail, d'une situation au travail où quelqu'un, une chrétienne, avait été très mal vue parce qu'elle était chrétienne. Et le but, c'était tout faire pour la mettre à la porte. Vous devinez bien ce qui s'est passé. C'est cette personne qui a été mise à la porte. Et c'est un des exemples, on peut en trouver dans bien des domaines, familiaux, travail, école. Combien de fois les choses qu'on concocte pour les autres, ça nous arrive à nous. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être attentifs à nos paroles aussi. Ce qu'on dit des autres, attention, ça sera peut-être dit de nous un jour. C'est la fameuse histoire, hein, du doigt qu'on tend vers l'autre et on en a 3 qui se retournent vers nous. Et c'est l'histoire aussi, c'est un verset de la Bible, hein, qui dit il creuse une fosse pour l'innocent et il tombe dedans. Ça, dans tous les films comiques, on a ça, hein, le gars qui met un seau sur la porte et naturellement, c'est lui qui le reçoit. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose que les gens sentent qui arrive souvent. Et là, notre Jacob, il est en plein dedans. Tout ce qu'il avait fait lui revient en pleine figure et encore plus douloureusement, je crois. Mais Dieu voulait lui faire expérimenter Parce que c'est ça l'école, c'est lui faire expérimenter ce qu'il avait fait. Non pas pour le casser, non pas pour se moquer de lui, mais pour lui faire comprendre que ce n'est pas une façon de vivre. C'est, il faut changer. Jacob, il faut changer. Tu vois ce que ça donne, Jacob, ce que tu as fait. Et c'est pour ça, vous allez voir, quand il va rencontrer son frère plus tard, il ne va plus avoir du tout la même attitude. Parce qu'il y a des choses qui ont changé à l'intérieur. Il l'a payé, hein. Et c'est aussi pour ça que Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne cherchons pas à nous venger des gens. » Je trouve que Dieu le fait beaucoup mieux que nous, beaucoup plus sévèrement que nous et beaucoup plus efficacement. Et ça, j'en suis sûre, je peux vous le garantir, parce que maintenant je l'ai vu de mes yeux vus. Quand les gens vous font du tort, ne cherchez pas à vous venger, ne cherchons pas à nous venger. Mais faisons comme ce prophète, c'est Isaïe, je crois, hein, qui avait apporté la lettre sur l'autel, la lettre d'injure, et qui avait dit « Seigneur, tu vois ». Et disant « Seigneur, tu vois cette personne, tu vois comment elle se comporte, tu vois son injustice, tu vois sa méchanceté, tu vois ses manipulations, tu vois tout ce qu'elle cherche à faire. Seigneur, occupe-t'en. » C'est bien plus dangereux que de s'en occuper soi-même. Il n'y a que Dieu qui a les moyens de corriger ceux qui nous font du tort, et il le fait mieux que nous, même si ça prend du temps. Ça prend du temps parfois, mais là ça a pris 7 ans, hein, mais il a déjà compris quelque chose. Alors évidemment, c'est amusant d'entendre dans la bouche de Jacob « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Pas des choses qui se font, ça, n'est-ce pas? Surtout en famille. Il commence à travailler quand même. Laban était un bon homme d'affaires, il avait gagné 7 ans de travail gratuit. C'est sans doute ce qu'il espérait quand il a vu que Jacob s'attachait à Rachel, hein, le premier mois du séjour. Laban avait même un argument tout prêt, et curieusement, son argument, c'était une sorte de version féminine du droit d'aînesse. Rebis. Évidemment, Jacob est furieux, mais il est totalement dépendant de la bonne volonté de Laban. Complètement. Pendant les 7 ans qui suivent, il va vivre des choses difficiles maintenant avec ses deux femmes. Parce qu'il se retrouve avec deux femmes, ce n'est pas du tout son intention. Bon alors, visiblement, à Haran, la polygamie, d'après les textes archéologiques, était assez courante. Mais ce n'était pas le but de Dieu, hein. Vous avez Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca. Donc le but n'était pas du tout la polygamie, mais là, bon, il s'est trouvé dans une situation bloquée. Il n'avait pas le choix. Et pendant les 7 années qui suivent, en fait, il va vivre un véritable enfer parce qu'il est tiraillé entre ces deux femmes. Léa, qu'il n'aime pas du tout, elle a 4 fils. Vous noterez aussi que tous les noms des enfants ont un sens, et un sens qui est relié à Dieu. Léa, visiblement, aimait Dieu, et Dieu aimait Léa. Et malgré la catastrophe qui lui était arrivée, elle a été quand même bénie. Et on sent que Dieu a de la compassion pour elle, parce qu'elle est rejetée. Et c'est intéressant de voir que Dieu prend soin de Léa. On remarque qu'il va la rendre féconde, donc elle n'est pas aimée, mais elle va avoir beaucoup d'enfants, ce qui à l'époque était un privilège. Les temps ont changé. Compassion de Dieu pour les victimes des calculs humains, peut-être. Compassion de Dieu pour les victimes des calculs humains. Rachel, comme Sarah, bah elle est stérile. Elle a beau être aimée, elle est bien embêtée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et alors, elle va faire comme... Donc c'est la grand-mère de Jacob. Elle va proposer sa servante. Ce qui était à l'époque un moyen d'adoption, c'est les mères porteuses, c'est... Voyez, on n'a rien inventé. Léa propose sa servante, et la servante va avoir 2 fils. Rachel propose sa servante, et donc sa servante a 2 fils. Du coup, Léa fait la même chose. Elle ne se laisse pas faire. La servante a aussi 2 fils. Et puis, ils en arrivent même à acheter Jacob. Jacob devient une marchandise. Et contre quoi? Même pas 30 pièces d'argent comme Joseph ou Jésus, non. Des mandragores. Une superstition locale, on pensait que ça facilitait la fécondité. Jacob échangé contre des mandragores. Pauvre Jacob, sa valeur intrinsèque est bien mise à mal. Lui, le fils de l'émir, le trompeur, il en est réduit là. On l'achète contre des mandragores. Du coup, Léa va avoir un fils, puis encore un. Elle aura une fille après. Et puis enfin, à la fin, Rachel, qui n'en peut plus d'ailleurs, qui dit « Je veux un enfant, sinon je meurs ». Elle est radicale. Dieu l'exauce. Et elle a un fils qu'on a déjà étudié dans le passé, qui s'appelle Joseph. Et elle dit « Dieu a enlevé mon déshonneur ». Alors là, je pense que si les gens sont favorable à la polygamie, l'histoire de Jacob nous montre que la Bible est tout à fait opposée. Elle ne le dit pas clairement, mais c'est une succession de problèmes douloureux. Les conséquences de la polygamie, c'est la jalousie, c'est la guerre dans la famille. On voit bien que ce n'est pas du tout ce qui est dans le plan de Dieu, hein, pour ceux qui auraient des doutes. Je crois que c'est clair, on voit les difficultés que ça a entraînées. Et alors, après 14 ans de service, on va bientôt s'arrêter, après 14 ans de service, Jacob demande à partir. Je crois qu'à sa place, on aurait aussi voulu partir, parce qu'il voyait un peu comment il travaillait, de jour comme de nuit, etc. Et curieusement, Laban le prie de rester. Pourquoi ? Le tiroir caisse a fonctionné. Laban est devenu riche. Parce que Jacob a tellement bien travaillé. Ça devait être un excellent éleveur. Hein. Il devait avoir des très bonnes notions des soins aux animaux, etc. Du coup, le troupeau de Laban est devenu immense. Et Laban, qui avait juste un troupeau qui était conduit par Rachel, donc vous voyez, ça ne devait pas être énorme, voilà que maintenant, il a un troupeau. C'est un homme riche, très, très riche. Donc, il lui dit, mais reste avec moi, parce que le Seigneur m'a béni. Et il lui dit, fixe ton salaire. Et pauvre Jacob, il se fait avoir une deuxième fois. Il fixe son salaire. Il dit, ben écoute, c'est pas compliqué. Tu me donnes les animaux qui sont colorés. Alors, on va lire ça. C'était juste après la naissance de Joseph. Lorsque Rachel eut mis Joseph au monde, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Alors là, je vous fais remarquer aussi que c'était le temps où lui, il voulait partir. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. L'école n'était pas finie. Combien de fois, nous, on voudrait se dégager de situations dans la vie où Dieu nous a mises parce qu'on voudrait souffler, hein ? Et ce n'est pas encore le temps de Dieu. Demandez à une femme enceinte de 7 mois si elle ne veut pas accoucher demain. Elle vous dira, ah oui, mais, bien sûr, parce qu'elle sait pourquoi. Mais en admettant qu'elle ne le sache pas, elle dira oui, oui, tout de suite. Et c'est un petit peu ça. Il y a des moments où il y a un temps de Dieu, il faut respecter ce temps de Dieu. Et là, ce n'était pas le temps de Dieu, il est obligé de rester. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais toi-même tout le travail que j'ai fait pour toi. Laban lui dit, je t'en prie, que je trouve grâce à tes yeux. Tiens, tiens, je l'ai appris par divination. Je ne sais pas où t'allais chercher ça. C'est à cause de toi que le Seigneur m'a béni. Il mélange tout, lui, la divination, le Seigneur. Il ajoute, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Et Jacob, le grand trompeur, se fait encore tromper. Jacob dit, tu sais toi-même comme je t'ai servi, ce qui est devenu ton troupeau grâce à moi, car le peu que tu possédais avant moi s'est beaucoup accru, le Seigneur t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Ça c'est important, parce qu'on voit qu'il a la notion de la bénédiction du Seigneur. Il ne l'avait pas au début. Hein. Vous vous rappelez au début de sa vie, c'était moi-je. Là c'est moi et le Seigneur. Maintenant quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? Et Laban dit, que dois-je te donner ? Et il répond, tu ne me donneras rien si tu consens à faire ce que je vais te dire. Il espère être plus malin. Je recommencerai à faire paître ton petit bétail et je le garderai. Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part toute bête tachetée et marquetée, toute bête de couleur foncée parmi les moutons, donc c'est moins nombreux, parce qu'un mouton, normalement, c'est blanc. De même, parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté ou tacheté. C'est vrai que c'est assez rare. Ce sera mon salaire. Donc, il ne demande pas trop. Il demande les bêtes les plus rares, les tachetées, les marquetées. Peut-être que, bon, il se dit, je vais peut-être trouver un moyen, qui d'ailleurs ne marche pas scientifiquement, paraît-il, mais bon. Ma justice répondra pour moi demain, ce sera mon salaire, quand tu viendras voir. Tout ce qui ne sera pas tacheté ou marqueté, c'est que je l'aurai volé, donc viens vérifier. Donc, je prends pour moi tout ce qui est tacheté ou marqueté. Et Laban est d'accord. Seulement Laban, c'est un gros, gros rusé. Il envoie ses fils chercher tous les animaux tachés ou marquetés. Et puis, voilà ce qu'il dit. Eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit, le même jour, Laban met à part les boucs rayés, marquetés, toutes les chèvres tachetées ou marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, donc des taches, et tout ce qui était foncé parmi les moutons, il les confia à ses fils, puis il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, qui donc était de l'autre côté. Malhonnête jusqu'au trognon. Malhonnête ! Il n'a pas peur. Ce gars l'a servi pendant 14 ans. Il l'a roulé dans la farine. Ça fait rien. Il continue à le rouler. Jacob a encore 6 ans à passer à l'école. 6 ans. Pauvre Jacob. Mais il n'y a que comme ça que Dieu pouvait le corriger. Pour que Jacob devienne, ce qu'on va voir après, je suis obligée de m'arrêter, pour que Jacob devienne Israël, il fallait un changement. Et ce changement, il ne pouvait pas venir comme ça. Ce n'est pas la poudre de perlimpinpin. Il fallait un travail de son cœur, dans les difficultés, dans les expériences douloureuses. Voir un peu ce que lui, il a fait aux autres, pour qu'il soit corrigé et qu'il puisse changer. Parce que ce que Dieu voulait, ce n'était pas seulement une relation avec lui, c'était une conversion. C'était un changement de nature. Qu'on ne puisse pas dire, quand on appelle Jacob, c'était comme si on disait « Bonjour trompeur », mais on pourra dire « Bonjour celui qui lutte avec Dieu » ou « Prince de Dieu » suivant les traductions. C'était autre chose. Hein? Et il faut encore 6 ans, là on va s'arrêter là avant les 6 ans, encore 6 ans de difficultés, de grosses, grosses difficultés pour que Jacob puisse arriver à changer et rencontrer Dieu au Guet Jabok et là avoir cette lutte avec l'ange. On va voir là Jacob qui va changer. Et dans notre vie, c'est la même chose. Dieu nous fait passer par des écoles. Heureusement, ce n'est pas toujours 20 ans. Mais dans tout un tas de domaines, il nous fait passer par des écoles de difficultés, où peut-être on trinque de ce qu'on a fait aux autres. Peut-être que c'est d'autres raisons. Ce n'est pas toujours ça. Il y a des gens qui sont gentils avec tout le monde. Mais Dieu veut nous apprendre des choses. Et ce temps d'école, je crois qu'il faut l'accepter comme une femme enceinte accepte d'aller jusqu'au bout, alors qu'à partir de 7 mois, elle aimerait bien être débarrassée. Je crois que c'est la même chose. Il faut accepter ce temps d'école, prier, continuer à tenir bon, et puis le Seigneur nous bénira. Seulement, l'avantage, c'est qu'on aura changé de l'intérieur. Chose que personne ne peut faire sans Dieu. Personne. On peut changer ses apparences, on peut changer ses habitudes, on peut changer l'extérieur, mais changer le cœur, il n'y a que Dieu. D'où l'importance de la prière, pour qu'on change de l'intérieur. Et accepter toutes ces épreuves qu'on a. Alors là, je crois que je suis en train de dire des très gros mots, hein, pas plaisant du tout. Accepter les épreuves, ça c'est... Mais se dire, ben, au travers de ces épreuves, Seigneur, tu vas me rendre meilleur. Tu vas me rendre meilleur. Tu vas changer ce qui ne va pas chez moi. Et c'est vrai, regardez les gens qui ont vécu des grosses épreuves. S'ils ne sont pas tombés dans l'amertume, ce sont des gens délicieux après. Donc soyons contents de devenir des gens délicieux, des gens qui vont changer, que le Seigneur travaille. Pendant toute notre vie, en fait, on est à l'école. Parfois de façon très dure, comme Jacob, parfois de façon plus souple. Mais on est à l'école et acceptons ce temps d'école parce que ce sera un temps de bénédiction. Et on en sort quand même. Hein. Il y a des grosses bénédictions qui vont suivre. Attention, parallèlement, n'oubliez pas que Jacob a terriblement prospéré. Laban et Jacob aussi. Et quand il repart avec des troupeaux immenses. C'est un des hommes les plus riches de la région. Dieu ne l'a pas abandonné. Il y a eu ce côté école à l'intérieur de son cœur. Il a souffert. Mais Dieu l'a béni par ailleurs. Je t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Même dans ces moments d'épreuve et d'école intérieure.